RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Thierry Corona.
Bonjour Mathieu.
Comment vas-tu?
Ben, très très bien.
Ça fait plaisir de te revoir.
Moi également.
Nous sommes ici dans ton antre, hein. On va dire ça, on peut représenter un peu.
Ah, c'est sûr, hein. 37 ans que je suis ici maintenant.
37 ans.
Impressionnant.
Restaurant Les Roses, ici au Casino 2000, à Mondorf-les-Bains.
Voilà, toujours avec passion, et c'est vrai que c'est un métier magique en fait, la sommellerie.
Beaucoup de boulot, hein?
Ouf, énormément. C'est vrai qu'on ne s'est jamais arrêté. Moi, je suis arrivé en 1988 ici et ça a été tout le temps du monde. Et des clients toujours satisfaits, heureux de revenir. Et puis, je les ai toujours bien conseillés en vin.
Ah oui, parce que toi, tu aimes le vin. Mais tes clients, finalement, ils aiment le vin et encore plus qu'avant.
Ah, j'imagine qu'avec les années. Parce que, et puis, je leur fais découvrir des petites pépites, des vins, des bons rapports qualité-prix. Et la raison pour laquelle ils reviennent.
Ce sont des choses qui sont compliquées de trouver, de se renouveler au niveau de la carte des vins, ou alors vraiment ça arrive tout seul quasiment?
Oui, quand on le fait avec passion en fait, alors on va voir les vignerons, on voyage beaucoup, on va à la recherche de vins qu'on aimerait bien faire découvrir, et on pense un peu à soi, on se dit on va essayer de découvrir quelque chose, oh, en plus en prix c'est très bien, donc les gens, ça va leur faire plaisir, ils vont pouvoir découvrir des très bons vins sans mettre vous voyez beaucoup d'argent, et donc se faire plaisir et pouvoir boire, pas dire on se limite à un petit verre parce que c'est trop cher, là se dire bon, au prix là on peut prendre la bouteille et puis se faire plaisir.
Alors 37 ans de carrière ici, tes goûts ont évolué avec le temps, ou finalement les vins qui dès le départ te passionnaient sont restés les identiques?
Ben, il est vrai que moi j'ai toujours été passionné d'abord pour les Bordeaux. Ça un peu depuis tout jeune en fait. J'avais 16 ans, j'aimais déjà le Bordeaux. J'aime toujours le Bordeaux. Après, j'aime un peu tout. Tout dépend du moment, tout dépend de la saison. Je peux pas dire j'aime un vin mieux qu'un autre en fait. C'est vraiment suivant la saison. Et des fois, je peux dire, ben là, j'ai envie d'un Bandol, j'ai envie d'un rouge corse, là, j'ai envie d'un blanc italien. Je peux pas dire, j'aime tout, en fait.
Alors, c'était autour de ce thème qu'on se retrouve aujourd'hui, puisqu'on a décidé de parler de saison. Souvent, on se retrouve autour de la saison été, parce qu'on se dit, tiens, c'est l'occasion de boire des petits rosés, des petits blancs légers, des choses comme ça.
Effectivement, surtout qu'avec le rosé, j'ai quand même lutté, et ça, il faut le préciser, parce que c'est un peu grâce à moi que la loi sur le coupage a été supprimée en 2009. Il y a eu une loi qui devait sortir autorisant le blanc et le rouge mélangés pour en faire du rosé. Et je me suis battu pendant plus d'un an au Parlement européen, justement pour faire détruire cette loi qui a été supprimée en 2009, quand j'étais président des sommets d'Europe, et je me suis vraiment battu pour ça.
Alors ça paraît complètement fou, est-ce qu'aujourd'hui en 2024, on pourrait imaginer, on le souhaite pas, mais qu'une décision aussi insensée
puisse... catastrophique, ça aurait ruiné tous les vignerons du sud de la France. Quand on pense 80% de la production mondiale en rosé est faite en Provence. Et c'est très difficile à faire du rosé. Alors si maintenant on dit, allez, tout le vin rosé, c'est du blanc et du rouge mélangé, mais ça serait la catastrophe, ça serait la ruine de tous les vignerons de Provence.
Ouais, et puis en termes de qualité aussi, hein,
aussi,
rappelons-le.
Ouais, ouais. Parce qu'un rosé, c'est franchement très difficile à faire. Les gens négligent des fois un peu le rosé, mais la vinification, c'est du précis.
Surtout lorsqu'on est dans des régions qui sont chaudes, puisque, rappelons-le, en fait, tout s'opère vraiment dans les premières heures, hein, c'est
exactement,
ça.
Exactement, hein. Parce que c'est les vendanges, quand il fait encore à la fraîche, comme il disait dans le midi, et qu'il fasse encore nuit, il ne faut pas qu'il y ait de soleil dessus, il ne faut pas abîmer les peaux, et il faut que la macération soit très très courte pour que tout au niveau aromatique, tout se développe. Donc ça, il suffit d'un peu trop de macération, ou que les peaux soient un peu abîmées, c'est fini, quoi.
On va parler des vins d'hiver cette fois. On prend le contre-pied hein, complet.
Hein. Voilà.
C'est,
oui.
Parce que on se dit vin d'hiver, on pense donc aux plats d'hiver, hein, fort naturellement, à des raclettes, des choses comme ça. Mais il y a plein d'autres choses.
Ah bah ça oui.
Hein, surtout ici dans nos régions, il y a du gibier, il y a tous ces plats à base de choux, de pommes de terre. On va pas rentrer tout de suite dans le détail.
Toutes les racines et tout.
Exactement. Voilà. On a ces agrumes qui nous viennent aussi de plus au sud de l'Europe ou du Nord-Afrique avec lesquels on fait des desserts.
Exactement.
Et on peut accommoder également des vins. Allez, on va commencer, j'ai envie de dire, par du classique mais efficace. Une bonne raclette ou même une tartiflette, qu'est-ce qu'on conseille comme vin ?
Alors déjà, pour tout ce qui est fromage chaud, hein, tout ce qui est raclette, tartiflette, là j'irais sur du vin blanc. Hein, éviter le vin rouge. Les vins blancs secs, hein, style vin de Savoie, pour être simple, ou un vin du Jura, pour que ceux qui aiment les vins un peu, les vins blancs un peu vineux, un peu qui ont des arômes un peu d'acacia, ouais, ou très secs, très nets, très francs, hein, comme par exemple la Crépy, SSL, ou même un vin de Loire assez frais, style Sauvignon, mais quelque chose de frais. Et si on veut aller au Luxembourg, c'est un bon Pinot blanc, par exemple, qui passerait très très bien sur une raclette, par exemple.
C'est sympa ce qu'on dit là au niveau du vin de Savoie, on n'en parle jamais. On peut parler de ces cépages qui sont très particuliers justement à ce terroir.
Ah oui, parce que si on prend... C'est vrai qu'ici, très peu de quarts des vins proposent des vins de Savoie, la roussette comme ça de Savoie. C'est... Beaucoup de gens, on parle de roussette, ils ne savent même pas ce que c'est. C'est vrai que c'est un cépage un petit peu oublié, mais un peu qui n'a jamais trop été à la mode ici, surtout au Luxembourg. Il faut dire qu'on a des très bons vins blancs au Luxembourg. Alors bon, pourquoi aller chercher si loin des fois, hein, quand on voit même en Moselle française aussi. Donc si on prend un bel auxerrois jeune avec des fromages, ça passe très bien. Pinot blanc, même certains Riesling, c'est magnifique parce qu'il y a la fraîcheur, il y a l'acidité, le petit côté citronné et ou le côté un peu fruit à chair blanche. Ou même si on va dans des très vieux auxerrois, on a vraiment le côté un peu résineux qui arrive et ça rappelle un peu certains vins du Jura, mais des très vieux. Si on prend même des très vieux blancs des années 80 qui sont encore très buvables, et parce que le vin blanc luxembourgeois se conserve très très bien. Souvent, les gens ont tendance à le boire très jeune, mais il y a encore trop d'acidité, trop de vivacité, et laissez-les bien s'aérer, s'ouvrir, se vieillir, et là, ils prennent toute leur ampleur.
Pour bien faire, il faut les garder combien de temps en cave ces vins ?
Tout dépend. Si on aime le vin jeune, alors je prends un exemple, hein, un Riesling par exemple. Mm-hmm. Un Riesling, vous pouvez le boire très jeune, très frais, avec un poisson grillé. Vous voyez, vous aurez le côté sensation un peu citronné, un peu minéral, le côté comme si on léchait des cailloux. Par contre, si vous le laissez 10 ans, même, voire 15 ans, jusqu'à 20 ans, vous aurez un petit côté un peu pétroleux. Comme certains grands Riesling d'Alsace en grand cru, où vous avez le côté un peu qui sent un peu le côté pétrole, le côté un peu foin coupé. Et là, ça s'accommoderait plus avec, vous voyez, même une viande blanche ou une choucroute.
Une choucroute, par exemple.
Et voilà, bon plat d'hiver, une bonne choucroute.
Alors la choucroute, c'est que du vin alsacien ou pas que ?
Bon, on peut aller, il y a des très bons vins de Moselle aussi, françaises, luxembourgeoises, allemands même. Principalement, j'aime bien le Riesling, la choucroute. Parce qu'il y a le côté fermentaire ouais, du chou. Et avec le Riesling, ça reprend un peu le côté, justement, comme j'expliquais, là, le côté pétroleux, qui est très agréable, la minéralité, la fraîcheur, qui fait bien ressortir la choucroute, en fait. Et j'aime beaucoup les Riesling, qu'ils soient luxembourgeois, français, mosellans, hein, ou alsaciens. Ou même allemand.
Puisque tu m'emmènes sur le Riesling, les Allemands ont ce talent de savoir vinifier le Riesling de mille et une façons. Comment c'est possible ?
Ils ont toujours eu un don pour les Riesling et c'est vrai que souvent, ils sont parmi les meilleurs du monde dans le Riesling. Ils ont un terroir qui s'approprie bien aussi et ça fait tout. Ça, déjà, le terroir, c'est beaucoup.
Il y a quelque chose qu'on aime beaucoup aussi déguster comme ça en hiver. J'imagine que c'est peut-être le cas aussi au restaurant ici, restaurant Les Roses. Ce sont ces soupes en entrée, ces petites soupes ou ces petits bouillons qui réchauffent, qui vraiment
vrai
nous plongent dans la saison.
Moi aussi, j'aime beaucoup. Un bon bouillon, une bonne soupe. Mais le vin, alors ce que j'aime, c'est le vin rouge et je le mets dedans carrément.
Ah oui,
oui.
C'est incroyable ça.
J'adore. Dans la soupe, ça s'appelle faire chabreau.
Ouais.
Et alors, c'est prendre un petit peu de vin rouge, des voix bien, bien fruitées, avec un petit côté tannique, comme
okay,
ça.
Ok, oui, oui.
Et style un Bordeaux jeune.
Un petit Bordeaux jeune.
Une petite giclée dans la soupe.
Ouais.
Et ça relève la soupe, ça donne un petit côté vin chaud dedans. C'est très agréable.
Ah tiens.
Et moi, ça me... En fait, j'arrive mieux à la boire comme ça, la soupe.
Ouais. Et avec un potage, par exemple.
Idem,
pareil, idem. Ça marche
oui,
aussi.
Ouais. C'est parce que comme c'est déjà liquide, en fait,
ouais.
J'aime pas boire quelque chose d'autre liquide à côté. Donc je le mets dedans.
Oui, au final, tout se mélange de toute manière. Autant mélanger tout de suite.
C'est vrai que c'est agréable. Après, si vous prenez même une petite soupe de petits pois, hein, c'est frais. C'est... Et là, éventuellement, un petit verre de blanc. Un petit verre de blanc sec. Vous voyez le côté très frais, le côté un peu sauvignon,
ouais.
Hein, qui a le côté végétal.
Ah oui.
Alors ça fait ressortir en plus le petit côté petit pois frais. Ça c'est bon. Ça.
Le sauvignon finalement, il y a quelques années, je me souviens encore, on disait souvent que c'était un vin qui était pas forcément facile à accommoder ou peut-être un peu plus difficilement que les autres.
Absolument. La raison pour laquelle en fait, c'est son côté assez parfumé. Alors des sauvignons, des fois quand ils sont un peu mal vinifiés, il y a des arômes un peu de pipitcha,
oui,
un peu désagréable.
Dit, ouais.
Mais quand c'est bien vinifié, il y a le petit côté très frais, très un peu buis sauvage ou buis coupé, vous voyez, fraîchement, comme si on va dans un jardin à la française, où quand les buis sont bien taillés, on a ce parfum qu'on ressent exactement dans le sauvignon. Et vous avez même des notes un peu de fruits exotiques, des fois. Et donc, vraiment très, très plaisant. Et moi, ça m'a vraiment... Le sauvignon, avant, je laissais un peu de côté, mais des fois, c'est très intéressant. Mais très difficile à accommoder, parce qu'il faut vraiment savoir quel sauvignon on met avec quoi. Parce que si on prend comme ça, au hasard, un sauvignon, si on l'a pas goûté avant, des fois, on peut se louper en accord. Et ça, c'est un peu dur.
Dans quelle région est-ce qu'on peut trouver un bon sauvignon sans se planter ?
En général, si on va à Sancerre, on ne se trompe pas. Ou en Touraine, si on va sur un Touraine Sauvignon, chez Vincent Cartier, que j'adore, il fait des vinifications très régulières, même dans les mauvaisimes, il arrive à les réussir, et vraiment très très beau, avec toujours son petit côté exotique, le côté très frais, buis coupé, le côté un peu végétal, fougère et tout, c'est très plaisant.
Je vais rebondir sur ce qu'on disait précédemment, on parlait de choucroute, mais on a aussi les dérivés, finalement, on a les potées.
Ah, la bonne potée lorraine.
Ouais, la potée lorraine.
Alors avec une potée avec lorraine, bon, on va aller en Lorraine, on va faire plaisir aux Lorrains. Avec la potée, moi j'aime bien un pinot noir.
Ah oui.
Un pinot noir de Moselle, très agréable. On peut aller même sur quelque chose de plus frais, sur un côte de Toul, un gris, des côtes de Toul. C'est très plaisant, il y a un petit côté un peu fruité, un petit côté cerise, comme ça, qui est très plaisant. Ou sur les pinots noirs, on aura plus un côté un peu fruit rouge, très, très gouléant. Il ne faut pas quelque chose de tannique, il faut quelque chose de souple. Après, on peut aller sur un petit gamay de Touraine, c'est très plaisant aussi sur une potée.
On a vu avec le réchauffement climatique que certains pinots noirs ici au Luxembourg sont devenus vraiment très très généreux, très c'est fou quand même, hein,
ah
vin
oui.
qui à la base nous ressemble.
Oui, c'est vrai, j'ai
ça,
vu
hein.
La différence en 30 ans, c'est impressionnant. Impressionnant, c'est maintenant ils arrivent à faire vraiment des beaux vins rouges avec une belle puissance et ça m'impressionne.
Alors la potée, tout ça, ce sont des plats de grand-mère, hein, comme on dit. Il y a le pot-au-feu aussi.
Ah ben c'est bon, ça aussi.
Hein, le pot-au-feu
oui,
aussi.
Oui, pareil pour le pot-au-feu aussi. On peut même aller sur quelque chose de plus généreux, un peu avec le pot-au-feu. Et là, on peut même aller sur des beaux vins, pas trop tanniques toujours, mais moi j'aime beaucoup le Saint-Émilion. Hein. Avec un Saint-Émilion, c'est très agréable.
Ouais, ouais, ouais. On parle pas forcément de vins de Vallée du Rhône. Ces vins-là, on va pouvoir les accommoder au cours de cette saison. Ça peut quand même fonctionner.
Très, très bien. Parce que là, c'est la saison aussi des gibiers, des gros gibiers, des gibiers à plumes.
Ah, et là, il y a des beaux noms. Il hein. y a des beaux domaines.
Là, on peut y aller. Parce que là, il faut des vins avec de la puissance, avec du fruité, avec beaucoup de caractère, des notes d'épices, des notes même sauvages ou animales. Si on va, par exemple, sur un faisan. Mm-hmm. Le côté venaison de la volaille. Un peu comme si on sentait le faisan qui avait transpiré sous ses aisselles.
Ouais.
On ressent exactement ces mêmes arômes dans un bandol d'un beau millésime assez âgé. Les vieux bandols, on retrouve ce côté un peu transpiration de volaille, le côté un peu sauvage,
racé,
plume racée, même putréfaction de sexe, le côté musqué. Ça, c'est très beau. Si vous allez sur des petits gibiers, de la biche, par exemple, un petit chevreuil, là, on va sur un vin de la vallée du Rhône. On peut aller sur un Gigondas, un Châteauneuf du Pape, du fruit et des notes d'épices. Ou même sur un Languedoc, sur les cépages un peu Grenache, Syrah, Mourvèdre, où on aura le côté très fruit noir, le côté fruit rouge, même un peu surmûri, le côté confituré, avec toujours un côté un peu d'épices douces, de poivre, le côté vraiment un peu masculin, viril. Après, si on va carrément sur des gros gibiers à plumes, sur du sanglier, là, on va vraiment sur des vins très forts. Là, on peut aller sur des Pics Saint-Loup. On est vraiment au sud du Languedoc. Et Pics Saint-Loup, il y a encore le côté plus généreux, plus épicé, plus fruité, vraiment des épices plus fortes.
Ouais. Des Fitou.
Et Fitou, par exemple, aussi. Ouais. Ça marche très, très bien. Et là, on peut vraiment... ou aller sur des Provence rouges, ou même certains rouges de Corse, mais en Corse, plutôt les rouges du Nord, issus du Nieluccio. Nieluccio, le Nieluccio, c'est un des cépages extraordinaires, c'est très tannique, très dur, qu'on retrouve sur l'appellation principalement patrimoniaux, mais qui se garde très longtemps, et plus ils se gardent, plus ils ont le côté un peu racé et sauvage. Parce que quand vous allez dans le sud de la Corse, vous allez le Chiacarello, qui veut dire le craquant sous la dent, en fait, hein, qui est un rouge très clair, très léger, ressemblant un peu à un pinot noir un peu épicé. Et là, qui ira plus sur des petits oiseaux sauvages, ouais, des petites perdrix, des petits... Bon, les Corses, ils mangent tous les oiseaux. Mais voilà, et ça avec des grives, hein, c'est très bon, ça.
C'est incroyable quand même d'avoir deux terroirs diamétralement opposés.
Très très différents, des cépages très différents. On penserait plus que dans le sud de la Corse, ça serait des vins plus durs, plus épicés. En fait, c'est plus dans le nord de l'île.
D'accord.
Voilà.
Et ce qu'on retrouve aussi, donc comme on le sait, il y a ces massifs montagneux aussi dans l'île.
Et oui, beaucoup.
Là, c'est pareil, ça apporte des choses, hein, j'imagine.
Beaucoup, parce que c'est des roches très granitiques, hein, en Corse. Et là, vous avez vraiment des terroirs très, très différent sur des granites très différents. Aussi bien le granit gris, le granit rose, il apporte des arômes très différents au vin.
On a fait des très beaux accords mets et vins jusqu'à présent dans le cadre aussi bien d'entrées que de plats. Il y a aussi les desserts.
Ah oui,
la particularité de ces desserts d'hiver, c'est qu'on essaye de mettre en avant les agrumes.
Eh oui, les agrumes. Ça, c'est des fruits que j'adore notamment. Il y a aussi le kaki-pomme.
Ah oui,
ça c'est la pleine saison. Là. Quand on arrive en hiver, le kaki-pomme, c'est un délice aussi. Et ça peut s'accommoder justement aussi avec les agrumes. Et ça avec une bonne coupe de champagne, ça réveille. Ça, les papilles, c'est frais, c'est très agréable. J'irai pas sur un vin trop liquoreux, quand même, avec ce genre de dessert. Parce que les agrumes, ça, il faut le garder, vous voyez, son côté très frais. Et ça, dommage de dénaturer. Donc plutôt aller sur une coupe de champagne, même sur une simple, une bonne tarte au citron, meringuée. Ça c'est quelque chose, c'est un de mes desserts préférés. Et avec une coupe de champagne bien fraîche, avec un blanc de blanc par exemple, ça s'accommode vraiment à merveille.
On parcourt tout au long de l'année cette route des vins du Luxembourg, où on nous parle beaucoup de zéro dosage. On viendrait presque à oublier les autres. Tu en penses quoi ? Quel est ton point de vue par rapport à ça ?
Ça a toujours été mes préférés. Parce que zéro dosage, ça évoque... Il n'y a pas de sucre en plus. Et donc, ça apporte vraiment le côté très frais, très pur. Comme si on léchait la roche calcaire, comme ça. Quand vous avez un repas, justement, d'hiver qui est assez lourd, assez chargé, vous finissez par des agrumes et vous finissez par un crémant sans dosage ou un champagne non dosé, ça apporte vraiment l'élégance, la fraîcheur. Et ça prépare, justement, après, un vin de dessert que vous pouvez prendre après, un vin de glace par exemple.
Ah, le vin de glace. Alors, vin de glace, c'est quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer si on sait pas, si on n'a pas vu des, par exemple, à la télévision, on a eu l'occasion de voir un petit peu ce type de récolte. Allez, on va raconter une histoire autour du vin de glace.
Ah oui, parce que c'est assez magique et pas toutes les régions peuvent faire du vin de glace. Parce que qui dit vin de glace, il faut qu'il gèle. Il faut qu'il fasse froid, c'est pas à Toulon qu'ils vont faire du vin de glace. Et c'est vrai qu'au Luxembourg, il y a la chance qu'il y a du gel. Comme en Alsace, ou en Moselle. Ou dans d'autres pays, comme l'Allemagne, l'Autriche, etc. En fait, il faut attendre vraiment que le raisin, il gèle. Et après les premières gelées, donc en fait, l'eau qu'il y a dans le raisin a gelé, il y a une concentration des sucres, hein, c'est ce qui fait que le raisin se flétrit, et c'est presque un petit raisin sec qui est sur les grappes. Et quand vous prenez ça, vous mangez ça, vous avez vraiment l'impression de manger un raisin sec, en fait. Et quand vous vinifiez, tout est dans la concentration. Ça donne des notes un peu d'abricots très mûrs, de fruits confits. Pour ça que ce vin est très cher, parce que au niveau rentabilité, vous imaginez, ça diminue de pratiquement 4 fois son volume.
Ah oui.
Et donc là, vous avez une concentration, et on appelle ça presque un élixir, parce que c'est majestueux. Vous buvez, bien sûr, il ne faut pas un grand verre, mais un petit verre suffit pour exalter tout ce nectar. C'est une merveille. Et ça, il faut l'accommoder juste avec quelque chose de simple, un gâteau sec, comme ça se fait beaucoup un peu à Noël ici, avec des spritz, avec tous ces noms que... Vous savez mieux que moi les citer, et vraiment qui sont un véritable délice, et ça suffit à lui-même. Quoi.
Ces vins de glace, il faut les boire à une température particulière?
Bon, il faut quand même qu'il y ait
une certaine fraîcheur.
Il ne faut pas qu'il soit trop glacé, parce que si on le sert trop glacé, ça perd un peu les arômes.
Ah oui.
Même si on le fait vers 8 degrés, par exemple, 8 degrés, on est très bien, parce qu'on garde toutes les valeurs olfactives, et on peut mieux l'apprécier.
Bon, en tout cas, on a eu une superbe sélection aujourd'hui de vins d'hiver. On a parcouru la France, un petit peu l'Europe aussi.
Ah oui.
Et on sait désormais comment sont concoctés ces vins de glace qui sont si rares, mais qu'on prend beaucoup de plaisir à ouvrir à l'occasion de Noël.
Et pour les fêtes, c'est vraiment majestueux, quoi.
Donc nous allons refermer cette page de ce podcast de la route du vin du Luxembourg.
Oui, merci beaucoup.
Pour toi, c'est aussi l'occasion de passer le témoin ici au restaurant Les Roses, hein, c'est
exactement,
ça?
Exactement, voilà. Maintenant, c'est la fin pour moi. Et la relève est assurée. Guillaume Grabiche qui va prendre la suite, un jeune homme très motivé. J'ai l'impression de me voir quand j'avais son âge. C'est vrai que ça fait plaisir de voir quelqu'un très très motivé qui aime vraiment son métier, qui le fait avec passion.
Tu continueras quand même un petit peu à être présent sur cette route des vins ?
J'ai besoin quand même de beaucoup de repos. C'est vrai que je vais passer un peu ma retraite un peu dans le sud de la France. Mais je reviendrai de temps en temps quand même dans la région.
Le sud de la France, on en a parlé. Parle-moi de ton vin préféré. Ce secteur de Bandol, c'est un secteur que tu affectionnes par-dessus tout. Ouais.
Absolument. Ouais. C'est vrai que la région de Bandol, ça fait depuis l'âge de 4 ans que j'y vais. C'est une région, pour moi, magnifique au niveau climat. Et le cépage que j'adore, c'est le Mourvèdre. Le Mourvèdre, et c'est ce qui fait l'appellation Bandol. C'est un cépage, quand je le vois, ça m'impressionne. Parce que des fois, il ne pleut pas pendant 2 ou 3 mois. Une chaleur intense. Et on voit ces raisins mauves qui transpirent, et on voit son feuillage encore bien vert alors que tout est sec, qu'il n'y a plus que des cactus et tout. Pour moi, ça m'impressionne de voir ce raisin résister à cette température et donner après toute son énergie, toute sa puissance dans les vins. Et quand vous prenez un Bandol, même jeune, il exprime des arômes vraiment de violet, de fruits noirs, de cassis. Et plus il vieillit, il évolue. Et vous le prenez 20 ans après, c'est encore bon à boire. Il a perdu ses tanins, mais il prend un côté sauvage, un côté animal. On peut le boire un peu avec tout. C'est un vin que j'adore. Et bon, je suis toujours un peu dans le comité de la fête du millésime à Bandol. Et ça, bon, j'y resterai parce que c'est vraiment des vins que j'adore, et je resterai dans le comité de dégustation.
Merci beaucoup Thierry Corona pour cette sélection de vins d'hiver. À très bientôt.
Merci,
et
merci,
bon repos.
Merci Mathieu.
Au revoir.
Au revoir.
La route des vins du Luxembourg.